Ça va commencer dans 5 secondes, les gars.
On essuie les plâtres. Hein.
Radio Apple Pie, 3 mois sans émission, mais nous sommes de retour. C'est notre Bertrand favori, ce soir en tout cas, mais avec toujours des invités. Aujourd'hui, attaque et des chroniqueurs, Pascal et Arnaud. Radio Apple Pie, 8e, ça tourne. D'absence donc, durant lesquelles l'actualité sociale et politique a été lourdement chargée. Les manifestations de Gênes et la répression policière brutale, l'assassinat du commandant Massoud, les attentats terroristes aux États-Unis et la riposte guerrière en Afghanistan. Sans oublier, entre autres, l'explosion de l'usine AZF de Toulouse. Des sujets dont nous ne pouvons pas parler en détail, mais nous en aborderons certains avec l'équipe de la radio ou avec nos invités. Avant d'entamer la discussion avec nos amis d'attaque, un petit hommage au commandant Massoud, première victime de cette guerre bizarre entre l'arrogant Occident et l'islamisme totalitaire. C'est un morceau
des
Beastie Boys qui s'appelle
Fight for your right.
You gotta fight for your right.
Ça y est, c'est parti, je crois.
Classes.
Apple Pie, 8e émission, en direct du bar de l'Apple Pie et en léger différé sur Internet. Avec ce soir comme invité pour cette grande rentrée, nos amis d'Attaque. Attaque, l'association pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens. On en reviendra plus en détail là-dessus. Une association qui a été créée au niveau national il y a 3 ans, avec une section locale qui date d'à peu près 2 ans. Attaque a été lancée à l'initiative d'Ignacio Ramonet du monde diplomatique. Et pour un petit peu d'historique, Wilfried Pasquet, bonsoir.
Bonsoir.
Tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus.
Tout à fait. Oui, donc Attaque, c'est un nom un peu véhément. C'est un nom que j'aime bien personnellement parce que justement, il s'agit de contre-attaquer par rapport à ce que les transnationales envisagent comme sort de la société au niveau planétaire, c'est-à-dire de gérer elle-même la société par-delà les gouvernements et les parlements. Et cette association s'est créée, qui veut dire, c'est un drôle de nom d'ailleurs, qui veut dire l'association pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens. Cette association, c'est comme si elle n'existait pas, elle s'est remplie comme si elle remplissait un vide. C'est-à-dire que dès qu'on a annoncé Ignacio Ramonet, le monde diplomatique, a annoncé sa création, des centaines, des milliers, maintenant près de 30 000 personnes ont rejoint rapidement cette association. À son origine, donc, le monde diplomatique, très rapidement, d'autres journaux, le Charlie Hebdo, Témoignage chrétien, pour montrer l'étendue de la gamme du panel politique que ça représente, Politis, des syndicats, Sud PTT, des syndicats des finances, des personnalités morales, des chanteurs comme Manu Chao, par exemple, plein de gens comme ça, ou d'associations, des municipalités aussi ont adhéré, et des gens. Et je voudrais insister là-dessus, c'est la particularité d'Attaque. Alors qu'on constate partout l'abstentionnisme qui grimpe, la désertion, la désyndicalisation, la désertion des organisations politiques, quelles qu'elles soient, et notamment à gauche, puisqu'il faut bien ancrer clairement à gauche l'association Attaque, massivement à gauche, on s'aperçoit que des gens qui, pour l'essentiel, pour la majorité d'entre eux, n'avaient jamais milité, ont rejoint cette association et ont envie d'y faire quelque chose et de devenir acteurs et actrices d'un nouveau mouvement. Et ça, c'est quand même assez un phénomène nouveau et qu'il faut prendre en compte, qui a été pris en compte par les médias. Et dans un premier temps, qui a été pris en compte de manière positive en disant « c'est très bien, ils sont gentils, ils sont contre la mondialisation, ils font pas de mal », mais qui, depuis quelque temps, commence à s'apercevoir que nous sommes quand même un poil à gratter de la mondialisation, parce que nous ne sommes pas des anti-mondialisation. Au contraire, nous ne voulons pas qu'on nous appelle ainsi. Au contraire, nous voulons une vraie mondialisation, une mondialisation qui soit généreuse, une mondialisation sociale et humaine, et non pas la mondialisation que nous promettent les transnationales. C'est tout à fait l'inverse. Mais nous sommes pour une mondialisation. Et après Seattle, après Gênes, après Göteborg, et après, justement, après des répressions de manifestations qui ont causé la mort de manifestants, le regard sur Attaque, et sur Attaque n'existe pas seulement en France. Il y en a dans tous les pays européens. Il y en a avec des noms différents, mais qui ont à peu près les mêmes positions en Amérique du Nord comme en Amérique du Sud. Il y en a au Maghreb, en Tunisie, où elle est interdite, et au Maroc. Eh bien, cet ensemble d'associations qui contestent le système capitaliste, ou pour certains, les dérives ultralibérales du système capitaliste, commence à prendre une ampleur certaine et à déranger les pouvoirs, quels qu'ils soient.
Alors, je crois que là, c'est bien résumé.
Il y a un petit point de détail que je voudrais préciser,
oui,
quand même.
Je n'ai pas encore présenté notre deuxième invité d'Attaque, donc Gérard Fontaine, bonsoir.
Merci.
En fait, est-ce qu'on explique tout de suite...
Je voudrais mettre faire une mise au point.
Hein. Oui, pardon.
Je voudrais faire une mise au point. Mm-hmm. Bon, il a été dit « ancrage à gauche ». Moi, je crois que, enfin, pour ce qui concerne un certain nombre de personnes, il y a des gens qui sont assez effrayés de ce qui se passe sur le plan du monde politicien et qui ne se situent pas forcément ni à droite ni à gauche, ni au centre, qui se situe en fait ailleurs, et cela veut dire être proche du citoyen, avant toute chose. Alors bien sûr, certains pourront interpréter ça comme étant à gauche. Ceci étant dit, je crois que c'est un langage qui date du siècle passé, et que maintenant il y a une nouvelle génération de citoyens qui vont prendre en main leur destin, et que nous pourrons pouvoir avancer, notamment pour les problèmes autant locaux que sur le plan mondial. Voilà.
Merci pour ces précisions, Gérard. Avant de poursuivre la discussion, étant donné qu'on est en direct et que l'assistance a l'air de s'échauffer un petit peu, on va essayer d'avancer un petit peu, parce que je suis pas sûre que cette discussion qui traverse beaucoup d'endroits, y compris Radio Apple Pie, est-ce que la gauche et la droite, ça va encore dire quelque chose? Bon, non, je pense que on parle en tout cas d'une mondialisation, comme l'a dit Wilfried, qu'on l'appelle capitaliste ou ultralibérale, d'une part, oui, qui est très violente dans ses effets économiques, sans aller plus loin, sans aborder le chapitre de la répression qui va avec, hein,
oui,
et donc de réaction, d'accord, on pourra dire ça comme un consensus peut-être, des citoyens pour lutter,
voilà,
de la manière la plus énergique.
Je crois que c'est beaucoup plus exact.
Par rapport, oui, à ça. Quoi qu'il en soit, pour que les auditeurs comprennent bien, est-ce qu'on évoque tout de suite la taxe Tobin, puisque, entre autres, ou les taxations en général, je sais qu'Attac lutte aussi contre les paradis fiscaux et contre tous ces...
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, le thème de la réunion de ce soir consistait surtout à traiter d'un problème qui devrait concerner tout le monde, même ceux qui se trouvent autour d'un verre. C'est que il y a entre 1 milliard 200 millions et 1 milliard 500 millions de personnes qui ont moins de 5 euros ou 5
moins d'un dollar, puisque malheureusement on se réfère souvent à ça pour vivre tous les jours, c'est ça?
Oui, tout à fait. Moi je parle en euros parce qu'en fait il faut s'y habituer. Oui, oui. Ceci étant dit, donc avec moins de 5 francs par jour, il y a 1 milliard 500 millions de personnes, c'est-à-dire un quart de la population mondiale qui ne peut pas manger à sa faim. Et même, on peut dire, qui crève la dalle.
Alors qu'à côté de ça, au nom d'un profit toujours plus généralisé et sauvage, une minorité de plus en plus grande, de plus en plus petite, justement, pardon, s'en met plein les poches pour résumer.
Oui, alors ça justement, en fait, c'est la contradiction entre la notion du libéralisme économique qui voulait que, d'après un dogme qui date maintenant d'il y a 150 ans, qu'il y ait une régulation automatique sur le plan économique. Alors, il s'avère que, ce qui nous a été, imposé par l'école de Chicago, avec l'ultralibéralisme, avec l'équipe de Friedman notamment, on se rend compte d'une chose, c'est que l'on crée de plus en plus de misère d'un côté, et puis, d'un autre côté également, même les pays dits riches s'appauvrissent. Ils s'appauvrissent. Bon, par exemple, en Europe, vous avez 50 millions de personnes qui se trouvent en dessous du seuil de la pauvreté, par exemple. Pour ce qui concerne les États-Unis, c'est la même chose, c'est le même chiffre à peu près, pour une population à peu près équivalente. Hein. Donc, la notion du ultralibéralisme ou de libéralisme a prouvé que on ne pouvait pas aboutir de ce côté-là, donc il faut trouver une autre voie. Il y a une autre voie qui avait été essayée et qui, bon, a été dévoyée. Maintenant, il y a une alternative à trouver. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Et cela mérite, disons, l'attention de chacun et un travail de chacun.
Et justement, enfin, j'aimerais bien qu'on précise un petit peu en quoi l'originalité de la démarche d'Attac, c'est ce que disait Wilfried, c'est-à-dire des gens qui viennent de tous horizons et qui se remobilisent pour plus de justice d'une nouvelle manière. Mais très concrètement, est-ce qu'on peut expliquer, parce que tous les auditeurs sont pas forcément au courant, tous les gens dans le bar non plus, et pas forcément nous-mêmes, En quoi maintenant ce sont les marchés financiers qui gèrent de plus en plus la vie de tous les individus? En quoi la spéculation est croissante? Et en quoi ATTAC propose d'agir par rapport à ça? Je pense que ça serait pas mal.
Bon, ça c'est le problème. Il y a différents problèmes en fait qui sont à évoquer. Il y en a trois. Il y a trois sujets qu'il faut vraiment évoquer pour ce qui concerne donc le problème de la faim dans le monde et donc tous les problèmes d'ordre économique. Primo, il y a une déréglementation sur le plan des marchés financiers et monétaires en l'occurrence, d'une part, premier point. Deuxième point, il y a l'existence de paradis fiscaux qui collectent l'argent de la drogue et l'argent de la spéculation. Et on s'en est rendu compte récemment avec l'affaire du fameux Ben Laden. Et ensuite, il y a le fait qu'il faut mettre la pression pour éliminer, pour éradiquer la faim dans le monde. Et ceci est possible.
Concrètement, j'y reviens, je m'excuse, concrètement les propositions d'ATTAC.
Alors concrètement,
par rapport à ça.
Bon, cela dépend comment est-ce qu'on veut aborder le sujet. Moi, je crois que le fond du problème, c'est d'abord éradiquer la faim dans le monde. Bon, pour ça, il faut. Il y a d'une part donc l'aspect de la réglementation au niveau des marchés financiers et monétaires. Alors ça, c'est l'aspect de la taxe Tobin. Bon, alors la taxe Tobin est une proposition qui a été faite par un économiste prix Nobel, James Tobin, en 1972, qui s'était posé la question comment réguler donc les mouvements monétaires en l'occurrence qui provoquent les cracks boursiers que nous avons pu vivre notamment depuis 10 ans. Il y a eu 4 grands cracks boursiers plus celui que nous venons de subir également, dont personne n'a parlé d'ailleurs en l'occurrence. Pour ce qui concerne la taxe Tobin, il y a une bulle spéculative de 1500 milliards de dollars qui circule chaque jour. Il s'agit dans un premier temps, et ceci n'est pas une méthode révolutionnaire de régulation donc des flux monétaires, il s'agirait donc de prélever un pourcentage qui serait de 0,05% sur ces spéculations. On n'inventerait pas du tout une taxe supplémentaire pour le citoyen lambda. Cela ne concernerait que les spéculateurs. Mais cela présenterait l'avantage de récolter une somme d'argent considérable et également de la redistribuer à ceux qui en ont besoin, notamment les pays du tiers-monde et également ceux du quart-monde, ceux qui crèvent de la faim et qui, en l'occurrence, ne peuvent même pas s'offrir un verre de bière le soir en passant.
Est-ce que la question qui se pose tout de suite, c'est pas une utopie ou une réalité? Est-ce qu'on peut, de l'intérieur du système économique capitaliste tel qu'il fonctionne, appliquer même une taxe toute petite qui permettrait de redistribuer? Ou est-ce que le fait que des gens meurent de faim dans le monde et n'aient pas accès a fortiori à l'éducation et un certain nombre de pensées autonomes, puisqu'ils sont pris par la réalité physique directe, est-ce que ça, le système est capable de l'accepter, Wilfried?
Moi je pense que des études de ce qu'on nous objecte, c'est justement, Laurent Fabius notamment, c'est que cette taxe ne peut être efficace que si elle est prise en compte que de manière planétaire, que tous les gouvernements des trois grandes puissances de la triade, États-Unis, Japon, Union européenne, si ces trois-là s'y mettent, ok, elle peut être envisageable, mais ce n'est pas possible parce que les Américains voudront pas ou les Japonais ne voudront pas. Évidemment, c'est pas gagné, mais la faisabilité, elle existe. C'est-à-dire que si techniquement la taxe Tobin est faisable, on peut mettre en place un organisme indépendant qui puisse prélever ces 0,05%. Il suffit d'en avoir la volonté politique clairement affirmée. S'ils mettent autant de volonté politique à faire ça qu'à vouloir éradiquer le terrorisme, et avec tous les moyens qu'ils y mettent, eh bien, on peut être sûr que la taxe Tobin pourra être appliquée. Or, il semble qu'ils traînent plutôt les pieds, comme ils traînent les pieds quand il s'agit d'aller voir à réglementer ce qui se passe dans les paradis fiscaux, parce qu'il y a beaucoup trop d'enjeux pour le système qui dérange quelque part.
On va continuer sur ce sujet, mais d'abord, on va écouter un petit peu de musique. On va écouter Francis Cabrel.
L'enfant chercheur contre nature, bien caché derrière sa devanture. Les tricheurs à la tribune, et nous tous les applaudir comme la lune, comme la lune. Pas de témoin une fois de plus, le monde autour est sourd, bien entendu.
Radio Apple Pie, avec ce soir comme invité le comité Avray d'Attaque. Avec Attaque, on parlait d'une de leurs propositions pour un petit peu plus de justice dans le monde, qui est l'application de la taxe Tobin. On en était à la faisabilité de l'application de cette taxe. Qu'est-ce qu'il veut en dire un peu plus là-dessus ?
Oui, je peux préciser une chose, c'est que ceci est tout à fait applicable au niveau européen, notamment au niveau de la zone euro, mais cela peut aller plus loin. C'est réalisable, cela ne pourrait en aucun cas gêner les transactions pour ce qui concerne l'économie réelle. C'est-à-dire qu'il faut distinguer l'économie réelle de l'économie fictive. L'économie réelle, c'est celle qui permet d'investir pour créer des emplois. L'économie qui est virtuelle, c'est celle qui donne lieu à la spéculation. Et donc, je parlais tout à l'heure de la bulle spéculative de 1500 milliards de dollars. C'est là-dessus donc que l'on peut jouer. Alors, pour ce qui concerne l'Europe, il y a une déclaration justement qui a été faite par Bernard Cassin il y a peu de temps. Ceci serait applicable, et combien même cela représenterait que 25% de la somme que l'on serait censé, collecter au niveau mondial, ce serait déjà ça. C'est-à-dire que l'on pourrait faire des réalisations extraordinaires au niveau des pays du tiers-monde, dans les pays les plus démunis, ce que l'on appelle les pays les moins avancés, où il y a justement ces gens qui dorment sur les trottoirs, qui n'ont pas le droit à l'eau potable, etc. Alors ceci a été prouvé également au niveau de la faisabilité par une étude d'économistes belges, et notamment de l'université de Bruxelles, comme quoi cette taxe sur la spéculation boursière, mais spéculative et monétaire, cela a été applicable au niveau. Attendez, je vais regarder un point de détail pour être très précis. Cela serait applicable notamment lorsque la commission de Bruxelles évoque l'infaisabilité, en fait, la Banque Centrale Européenne n'a pas prise sur cette taxe. C'est du domaine des États. Et donc, par voie de conséquence, l'argument avancé par la commission de Bruxelles se trouve battu en brèche, complètement, en totalité.
Merci pour cette précision. On parlait tout à l'heure de la création d'Attaque donc au niveau national il y a 3 ans. Peut-être qu'on pourrait aborder un petit peu plus en détail la création du comité local et son fonctionnement, ses diverses actions.
Oui. Petite parenthèse juste avant, j'entends Gérard qui nous parle justement des pays les moins avancés où les gens crèvent de faim, meurent sur les trottoirs. Et j'ajouterais les enfants aussi en Chine qui fabriquent les chaussures Nike. Ne serait-ce pas là un retour au 19e siècle et les idées justement qui paraissent soi-disant surannées sont toujours vivaces. Et au 21e siècle, les enfants travaillent encore, les enfants crèvent de faim et la lutte entre le capital et le travail est toujours d'actualité. Pour ce qui est du comité Avray, il est né il y a un peu plus de 2 ans, peu après la création d'Attaque nationalement. J'ai fait partie des quelques personnes qui se sont aussitôt raccrochées au wagon de ce qui se passait nationalement. Et très rapidement, après une phase d'atermoiement, on a réussi à regrouper une quarantaine de personnes. Puis on s'est créé au bout d'un an en comité, en association, avec un président, un bureau, de manière tout à fait classique. Ce qu'on a pu constater, c'est que on représentait exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, le panel type sociologiquement, un peu de gens de tout, peut-être un peu plus de profs que qu'il en faudrait, peut-être moins de travailleurs, de salariés qu'on pourrait l'espérer, par exemple. Mais ça peut évoluer.
Des chômeurs,
quelques chômeurs, oui. Mais on représente pas le panel, l'image sociologique de l'ensemble de la société française.
Non, par contre, il est possible que ça évolue puisque vous avez des volontés aussi d'éducation par rapport à ça.
Tout à fait, oui. C'est un des rôles majeurs que nous fixons. Autre chose, c'est la quasi-absence sur 110 adhérents, maintenant à peu près à jour de cotisation au Havre, sur 110 adhérents et adhérentes, il y a très très peu de militants politiques encartés, c'est-à-dire actifs dans une organisation. Il doit y avoir un ou deux militants des Verts, un ou deux militants de la LCR, un ou deux militants du Parti communiste, peut-être un socialiste ou deux, point, le reste sont des adhérents qui appartenaient à aucune organisation ou qui ont quitté des organisations, quelles qu'elles soient, mais essentiellement des organisations de gauche.
Il revient dessus.
Non, mais c'est des faits. Ils ont quitté.
Oui, non, mais apparemment, quand même, le mouvement ATTAC, c'est quand même plus que...
Non, ce n'est pas uniquement la gauche. C'est ouvert à tout le monde.
C'est ouvert.
Bon,
c'est
si ça peut faire rire.
C'est ouvert ou tout ouvert?
Personnellement, c'est un point de vue
c'est ouvert, mais
qui n'appartient qu'à moi. Si vous avez 50 adhérents demain qui ont quitté des partis de droite, ça sera pas mal.
Lorsqu'on voit ce que fait la gauche actuellement, je suis désolé, mais...
Il ne faut pas confondre les dirigeants avec les militants.
Oui, mais ce sont deux qui.
Donc, le HAF s'est construit, a pris des initiatives. On a pris d'ailleurs une initiative assez large et qui a connu un grand succès au mois de novembre de l'année dernière, qui se situait autour de la problématique de la terre, qui s'appelait Terre et Résistance, qui a regroupé chez Mamie Blue pendant plusieurs jours un ensemble d'associations dont ATTAC a été partie prenante. Il y a eu le comité de Chiapas, il y a eu l'association de soutien aux travailleurs immigrés du Havre et la confédération paysanne de Seine-Maritime qui nous a donné un coup de main pour discuter et débattre autour des problèmes de la terre d'un point de vue qui nous ont permis de parler du Chiapas comme de parler des OGM, de parler aussi de l'agriculture raisonnable par rapport à l'agriculture productiviste avec François Dufour, notamment de la confédération paysanne. D'autres initiatives ont eu lieu, notamment sur les problèmes de l'école, après des grèves de l'éducation nationale. Et la fin de la semaine, samedi, le 13 octobre, à la salle Cassin, 130 rue Anatole France, toute une après-midi et une soirée seront consacrées à la marchandisation de l'école en France notamment.
En fait, vous disiez tout à l'heure hors antenne qu'il y avait un grand travail de réflexion et de travail en commission au sein d'ATTAC. Oui. Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus de ça?
Oui, c'est comme ça en fait qu'on peut arriver à bien déterminer ce que fait ATTAC. Bon, là, en l'occurrence au Havre notamment, il ne s'agit pas de se disperser. Il y a trois groupes de travail et d'action que je pourrais citer en premier lieu. Un qui a existé dès le début, qui traitait du problème des retraites et notamment du problème également des pensions. Ça, je ne peux pas tellement en parler parce que je connais assez mal le sujet. Mais il existe deux autres groupes qui travaillent beaucoup. D'une part, donc, le groupe éducation, d'une part, et également le groupe taxes Tobine, dettes tiers-monde et paradis fiscaux, les trois domaines faisant corps, puisque rien ne peut être séparé, en l'occurrence. J'évoquais tout à l'heure le problème de la faim dans le monde. cela veut dire aussi autre chose, c'est que vous avez notamment les problèmes qui existent sur le plan mondial et avec la pression du Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui, en l'occurrence, dès les années 70, ont mis la pression, peu à peu, et surtout depuis les années 80, l'on s'est rendu compte d'une chose, c'est que l'argent qui était prêté à des taux très faibles dans les années 70, pour ce qui concerne donc les pays les moins avancés, au bout de 10 ans, se retrouve avec une situation catastrophique et l'obligation de rééchelonner la dette, comme l'on dit. Et la Banque mondiale, en l'occurrence, ainsi que le Fonds monétaire international, acceptent bien sûr de prêter à nouveau de l'argent, mais ils imposent des systèmes qui sont tels que l'éducation, les services publics et le mode de vie, notamment la suppression des cultures vivrières au profit de cultures vouées à l'exportation, démolit totalement les modes de fonctionnement des sociétés d'Afrique, voire d'Asie, parce que et également d'Europe centrale.
Pardon. En pratique, ça veut dire que chaque fois qu'il y a une injection financière dans des pays comme ça, on impose aux États de ces pays de privatiser une bonne Exactement. Partie de ce qui jusque-là était d'État, et ensuite on modifie les productions locales pour les faire aller plus vers l'exportation que pour les besoins de
tout à fait, tout à fait. Alors bon, tout cela va dans le droit fil. Tout cela va dans le droit fil d'une doctrine économique qui est ultralibérale. Et pour en revenir à l'éducation qui était évoquée tout à l'heure par mon collègue Wilfried, cela touche également les pays européens, et il y a tentative en France notamment de rendre l'éducation au service marchand. Et c'est donc une conséquence que l'on a déjà perçue en Afrique ou ailleurs, mais les pays dits riches maintenant également, à moins d'un changement, vont se trouver liés à des systèmes qui vont complètement obérer le rôle qu'avait l'éducation. Quel était le rôle de l'éducation? Bon, ce n'est pas à moi d'en parler, je ne suis pas du tout enseignant, mais ça consistait, certes, à apprendre à apprendre, mais vraiment, d'une part, puis également former des citoyens, et on assisterait donc au contraire. Voilà ce que je pouvais rajouter, tout en liant l'aspect du tiers-monde et également le problème qui se trouve posé dans les pays dits développés.
Brièvement, en France, ça pourrait donner des choses comme qui sont peut-être pas définitivement abandonnées d'ailleurs, comme Monsieur Allègre a essayé de les faire passer, qui ferait plus des gens scolarisés, des futurs employés de la grande machine industrielle, et pas des gens qui sont des citoyens formés.
Il y a déjà des tentatives qui sont faites, notamment dans l'enseignement supérieur, ou même dans des lycées, où on apprend déjà aux apprenants, comme on dit, à boursicoter. C'est-à-dire, on apprend à gérer un budget fictif, et puis les meilleurs, on leur décerne un petit cadeau, une petite carotte, pour celui qui a le mieux géré son panier d'actions au sein du système scolaire public. On fait entrer des logiciels qui sont orientés complètement dans la logique du libéralisme à l'intérieur, toujours avec, moyennant des, une approche toujours un peu comme les Américains bombardent, mais ils envoient des parachutes humanitaires. Là, on donne des logiciels qui sont bien influencés par la logique capitaliste et ultralibérale, et en même temps on fait des cadeaux à l'école, c'est-à-dire qu'on va offrir 20 ordinateurs gratuits pour le lycée machin chose. Bon, c'est très habilement fait, mais petit à petit le loup ultralibéral creuse sa place avec la complicité plus ou moins avouée des ministres qui sont en place, notamment Allègre à son époque.
On comprend bien. On comprend bien d'ailleurs, justement, parce que tout le monde ne fait pas forcément le lien, je pense qu'Attaque en est une bonne représentation, qu'il n'y a aucune différence de lutte entre les gens qu'on appelle justement du tiers-monde ou du Sud maintenant, ou enfin bon, des pays qui sont globalement pauvres et des pays qui sont appelés plus riches ou plus avancés. En fait, c'est la même lutte contre un système qui fait passer l'économie avant l'humain. Et si vous voulez bien, on va repartir sur la fin dans le monde, mais on va d'abord écouter un petit peu de musique avant. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now. Funk soul brother, right about now. Funk soul brother, right about now. About now. About now. About now. Apple Pie, toujours en direct du bar de l'Apple Pie, ça s'entend ce soir d'ailleurs, l'assistance doit être passionnée par les problèmes d'actualité puisque tout le monde semble s'exprimer. Donc nous sommes toujours avec Attaque et comme vous le voyez, il y a énormément de choses à dire, on est loin d'avoir abordé tous les sujets. On va peut-être parler tout de suite, puisqu'on est avec le comité local d'Attaque, de leur lien avec les comités des villes proches, c'est-à-dire Attaque 76. Wilfried, tu peux nous parler un petit peu d'Attaque 76?
Oui, très rapidement, Attaque s'est construit, comme nationalement, s'est construit très rapidement en Seine-Maritime. La ville phare, entre guillemets, au niveau d'Attaque, c'est l'agglomération rouennaise, notamment par son tissu social et la présence d'une faculté. À Rouen, il y a environ 350 adhérents. Il y a un comité attaque aussi à Dieppe, qui comporte une soixantaine d'adhérents. Un comité qui s'est créé aussi à Fécamp, tout récent, d'une vingtaine de personnes. Et le comité attaque à Vray, qui compte plus de 110 personnes adhérentes. Et donc, nous avons tenu à créer une structure commune, régionale, qui s'appelle Attaque 76, et qui organise tous les ans, enfin, on l'a fait l'année dernière, on va le refaire en février, sur deux jours des petites universités, entre guillemets, de formation. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que quand on traite des problèmes économiques, quand on traite le problème des OGM, par exemple, qui n'est pas un problème facile à discuter, à débattre en public, si on tombe sur quelqu'un qui est d'accord avec l'utilisation des OGM, il faut que les adhérents et les adhérentes d'attaque soient armés pour pouvoir les contrer de manière pertinente. Donc nous tenons à former d'abord nos adhérents pour après, dans un deuxième temps, informer et éduquer le plus de gens possible qui sont concernés, qui se sentent attirés par nos idées.
On en parlait tout à l'heure, c'est difficile, même si les gens se définissent comme citoyens, d'arriver à impliquer tout le monde au-delà de l'adhésion.
Ça, c'est un problème qu'on... Il y a deux problèmes dans l'attaque qu'il faut quand même connaître. C'est le problème du militantisme. C'est-à-dire que c'est pas une organisation politique où, quand on lève le doigt, tout le monde se lève, pas pour Danette, mais pour aller coller des affiches ou pour aller distribuer des tracts, comme on a pu le connaître quand on a été militant d'une organisation. Là, les gens n'ont, pour la plupart, jamais milité où que ce soit. Et donc, ils ont une tradition plutôt de discussion, et c'est plus difficile de les entraîner dans la rue, soit pour tracter, soit pour manifester, soit même pour réagir très vite à un événement comme par exemple la guerre qui se déclare du jour au lendemain. Un deuxième handicap d'attaque, et qui est propre à attaque en France, c'est un décalage entre la jeunesse des manifestants et la relative, pas vieillesse disons, mais l'âge relativement avancé de ceux qui sont adhérents. C'est-à-dire que la moyenne d'âge tourne autour de 40-45 ans pour les adhérents qui participent aux réunions. Or, tous ceux qui étaient à Gênes, tous ceux qui étaient à Nice, à Göteborg, vous avez pu le voir dans les parcours de manifestation, sont massivement des étudiants. Donc là, il y a un dysfonctionnement et un décalage entre ceux qui sont dans la rue et ceux qui sont regroupés au sein d'attaque. Et c'est à nous d'y réfléchir. Bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'on fait, puisque les jeunes ne se retrouvent pas dans notre mouvement. C'est à nous de réfléchir à comment gagner cette jeunesse et à faire en sorte soit qu'elle rejoigne Attaque, soit qu'elle crée ses propres structures, mais qu'elle se structure. Ou alors peut-être qu'elle n'a pas envie d'être structurée. Ça, c'est une autre hypothèse qu'on peut entendre aussi.
Tu veux dire qu'à l'issue de manifestations, c'est difficile, même en prévenant de réunions futures, de mobiliser des gens qui viendraient à la réunion et qui se joindraient aux commissions?
Oui, pour l'instant, oui, localement et même régionalement, on ressent tous un peu ce handicap, quoi.
Puisqu'on a parlé de manifestation, je fais juste un petit point, parce que quand même il y a une manifestation qui est annoncée pas plus tard que vendredi, c'est-à-dire après-demain. Oui. Donc là, je parle plutôt pour les gens qui sont dans le bar, puisque malheureusement, à cause du différé, je pense que l'émission sera en ligne sur Internet après la manifestation. Mais donc il y a une manifestation contre les bombardements en Afghanistan, qui est à l'origine d'attaques et d'un certain nombre d'organisations. Oui. Vendredi, est-ce que vous pouvez m'en dire?
Il y a des syndicats, il y a plusieurs syndicats qui participent. Il y a le SGEN CFDT, il y a Sud PTT, Sud CRC, il y a les Verts, il y a le Mouvement de la Paix, et il y a le Parti communiste et la LCR. D'après, je suis pas exhaustif parce que j'étais pas présent à la réunion unitaire.
Il y aura le Mouvement des démocrates aussi.
Le Mouvement des
démocrates.
Donc, Attaque a pris cette décision d'appeler à manifester non seulement au niveau local, mais au niveau national, puisque c'est lundi, je crois, qu'il y avait une manifestation à Paris, ouais, entre autres.
On reprend là encore beaucoup plus d'organisations au niveau national.
Ça veut dire que vous allez avoir un long travail au-delà de du réflexe spontané qu'on a tous, enfin tous, la
il faut
plupart
dire,
d'entre nous.
Il faut dire, pour être franc aussi, et pour pas manier la langue de bois, que la décision de participer à ces manifestations n'est pas si facile et n'emporte pas l'adhésion de tous les adhérents d'ATTAC. J'ai appelé des personnes appartenant au bureau à la direction parisienne d'ATTAC qui disent que ça bouge beaucoup au sein des comités et qu'il y a des divergences importantes sur l'analyse que l'on fait par rapport à ce qui se passe en Afghanistan. Tout le monde n'est pas contre la guerre. En général, tout le monde est contre bombarder le peuple afghan, mais certains sont d'accord pour une intervention très fine, juste en direction de Ben Laden. D'autres disent que de toute façon, ça va déraper. Il y a débat au sein de l'attaque et ça, on ne le cache pas.
C'est plutôt normal et plutôt sain. J'aurais tendance à penser, faut rappeler quand même que c'est seulement il y a 3 semaines qu'ont eu lieu les attentats aux États-Unis, que George Bush a commencé à parler de guerre, ça on le voyait bien venir. Je vais juste citer un truc avant de donner la parole à Gérard Fontaine. C'est une citation de Bush qui m'avait échappé et qui a pourtant été reprise un peu partout, mais qui était mise en exergue dans le monde diplomatique, parce que c'est assez révélateur, à mon sens, ça n'engage que moi, d'une pensée terrible. C'est « Maintenant que la guerre nous a été déclarée », si j'entends bien quand même les États-Unis, « nous conduirons le monde à la victoire ». Ce qui suppose quand même que le monde entier est derrière les États-Unis, c'est assez excellent.
Et oui, et je rajouterais que quand il dit « nous emmènerons le monde à la victoire », il dit aussi « ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous ». Et ça, c'est très important. Il y a un article qui est paru le 24 septembre dans le Wall Street Journal. C'est le journal de la haute finance des États-Unis. C'est le journal des décideurs, des managers, des transnationales. Et que dit ce journal ? Ce journal fait un parallèle très clair entre les militants qui étaient à Gênes, les militants pacifistes qui étaient à Gênes, parce qu'il y avait plus de 200 000 militants pacifistes. Ne nous arrêtons pas aux 1500 ou 2000 sur lesquels les médias se sont focalisés, qu'on a appelé le Black Bloc. Ceux qui en ont pris plein la gueule, passez-moi l'expression, ce sont des manifestants qui ne demandaient pas et qui ne cherchaient pas la bagarre et qui n'y étaient pas du tout préparés. C'est pour ça qu'ils se sont fait bien massacrer. Et certains qui sont du Havre n'osent pour certains, sortir et voir un uniforme tellement ils sont traumatisés parce qu'ils ont vécu à Gênes. Et je ne plaisante pas quand je dis ça.
Mais ça, je pense que l'opinion publique s'en est aperçue de ça. Les gens se sont bien rendus compte de ça, que c'était une minorité de casseurs pour des milliers et des milliers, des centaines
Tout
de milliers
fait.
De pacifistes.
Mais quand ce journal dit que les propos que tiennent les anti-mondialisations sont, même s'ils ont des ripostes moindres que celles que Ben Laden, sont quand même les mêmes, qu'ils ont le même adversaire, c'est-à-dire les États-Unis, eh bien ils nous disent, eh bien maintenant, ne vous étonnez pas de ce qui vous arrive si vous continuez à vous battre contre nous.
Non, mais ça c'est un danger.
C'est une menace claire.
C'est terrible, c'est terrible. En plus, on en parlait tout à l'heure, en préparant l'émission, ce sont des choses qui ont été reprises, non seulement par Berlusconi, dont on peut... auquel on pouvait s'y attendre, mais aussi par un certain nombre d'éditorialistes français, pas forcément dans des journaux financiers ou extrémistes, ce qui fait quand même effectivement très peur, quoi. Mais comme disait Arnaud, parce que c'est Arnaud qui est intervenu là-dessus, je crois que l'opinion ne s'est pas trompée sur le...
Et les journalistes non plus, d'ailleurs, en l'occurrence. Parce que il faut bien préciser une chose, c'est que les Black Blocs viennent des États-Unis, d'Angleterre, enfin de Grande-Bretagne et d'Allemagne. Bon. D'une part. D'autre part, également, ils ont franchi les frontières d'une façon allègre, si j'ose dire. Et par ailleurs, bon, bien sûr, sur 200 000 personnes, il est normal, c'est la loi du nombre, qu'il y ait des gens qui soient un petit peu plus excités que d'autres, ça c'est sûr. Parce que l'ambiance était là...
D'autant qu'à part bon, des provocateurs ou des gens carrément manipulés, même si c'est quelque chose de condamnable, enfin en tout cas qui n'apporte rien au mouvement, on peut comprendre que tout ce qui se passe énerve vraiment les gens.
Mais ça n'a rien à voir avec... Ça n'a vraiment rien à voir avec ce qui se passe à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, pour le moins. Avec la guerre en Afghanistan, avec le phénomène Ben Laden, mais bon, là, pour Ben Laden, on pourra en dire long, hein. C'est la deuxième fortune d'Arabie Saoudite, ça faut pas l'oublier, qui a spéculé à tout du mieux, hein, voilà, hein, donc il n'y a pas d'amalgame à faire entre ceux qui se trouvaient à Gênes et puis
Et puis les phénomènes actuels de terrorisme et tout ça. Nous ne sommes pas du tout des terroristes, mais ce serait une absurdité, une vue de l'esprit ou quelqu'un qui, disons, qui a bu outre mesure. Quoi, hein.
Au même titre, d'ailleurs, c'est quelque chose dont on n'avait pas encore parlé ce soir, et puis je pense qu'il faut quand même le préciser aussi, c'est que on peut assimiler personne à Oussama Ben Laden et ses réseaux terroristes, si ce n'est justement cette bande totalitaire. C'est-à-dire que c'est ni le monde musulman, c'est pas la lutte d'une civilisation soi-disant contre une autre. Et effectivement, évidemment, ça n'a encore moins à voir avec les mouvements anti-mondialisation libérale. Le terme est long.
C'est un règlement de compte au sein des dirigeants de l'islam de l'Arabie Saoudite. En réalité. Il n'y a pas que ça, mais enfin, bon...
Malheureusement, je crois qu'on n'a pas trop épilogué. Il nous faudrait une émission entière. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé, que vous venez à préciser?
Oui, parce que ce soir, en fait, le thème, c'était quand même le problème de la faim dans le monde. Alors, il serait peut-être utile de rappeler que malgré tout, bon, même si les pétitions n'ont pas l'air de faire florès... chez nous, j'ai quand même sous les yeux une qui se diffuse. Il y en a eu une précédente qui a recueilli quand même 24 millions de signatures et qui concerne le problème de la faim dans le monde. Cela veut dire une chose, c'est qu'en fait les gens sont très interpellés par le phénomène de la misère et en l'occurrence les jeunes. Il y a des informations qui précisent cela, et s'il y avait en l'occurrence un sujet sur lequel on pouvait agir, ce serait parler de la misère, tout simplement, de ce qui se passe, non seulement la misère dans les pays du tiers-monde, mais également chez nous. Lorsque un quart de la population du monde se trouve concernée par cela, il faut mettre la pression. Et c'est le sujet donc de la pétition qui est pour un monde plus juste, mais la pression, tout simplement. Et elle a été engagée il y a peu de temps. Normalement, elle se termine le 13 octobre, mais il y a une prolongation qui est prévue de telle façon que les pays, notamment puisqu'il s'agit de la France en l'occurrence, imposent qu'il y ait 0,7% du produit national brut qui soit distribué, mais d'une façon correcte, auprès des pays les moins avancés et qui ont des problèmes, notamment de malnutrition. Voilà ce que je voulais ajouter. J'aurais pu rajouter bien d'autres choses pour ce qui concerne le problème de la faim dans le monde, qui est un problème crucial, parce que là où il y a des problèmes avec la population, l'on peut fabriquer des terrorismes potentiels. On peut très bien demander à un 4x4 de se jeter sur un endroit X ou Y. C'est très facile de... de mettre en œuvre les capacités pour conduire un avion, en l'occurrence. C'est très facile.
C'est certain que ça reste une toute petite minorité des gens qui sont réduits à la misère, qui en arrivent à ces expédients, mais ça peut tout à fait se comprendre quand on pense que le poids d'une vie humaine n'est pas le même selon les endroits. Donc, évidemment... Un instant, Christian. Pour l'instant, on conclut. Après, peut-être une inter...
Ça n'a rien à voir. Justement, c'est par rapport...
Une intervention du public. Est-ce que tu peux expliquer hors antenne, non de...
C'est...
Christian.
Oui. Simplement une question. On t'offre 40 000 ou 50 000 francs, est-ce que tu vas serrer un boulon de 8 sur une tourelle de char?
Répétez la question parce qu'il y a beaucoup de bruit et je n'ai pas entendu.
Je réitère ma question. je réitère ma question. On t'offre 30 000 ou 40 000 francs, ou même 6 000 francs par jour, ou 4 000 francs par jour, parce que c'est là, c'est l'arme qui est en cause. L'arme. Donc c'est fabriqué par l'homme. Est-ce qu'on t'offre... C'est fabriqué par qui ? L'homme. L'arme. C'est fabriqué par l'homme.
Oui.
Donc...
En fait, ta question, c'est...
On offre... Est-ce qu'on peut accepter à n'importe quel prix de commande serrée un boulon de 8 sur une tourelle de char? On dit oui ou non?
Ah mais c'est une bonne question, mais je vois pas du tout pourquoi tu la poses aux invités d'attaque ou à nous, en l'occurrence. Ça me semble assez hors sujet, sans vouloir t'emmerder, mais franchement...
C'est hors sujet. Dans un sens, il a raison. Si, tant qu'il y aura toujours des gens pour accepter de gagner 10 000 francs ou 12 ou 20 000 francs pour aller serrer un boulon d'huit sur une tourelle de char, il y aura toujours de l'armement. Et comme ces puissantes entreprises ont de l'argent à proposer à leurs salariés, forcément, ils trouveront toujours de la main d'œuvre pour...
Tout homme a son prix.
Oh, oui, mais enfin, vous savez.
Tout homme a son prix.
Ouais, voilà.
Donc, ouais, enfin.
L'arme est en cause. C'est pas l'homme qui est en cause, c'est l'arme.
Ce qui est en cause, c'est un système qui fait passer l'économie avant l'homme. Et...
Que malheureusement, que la personne est obligée de construire des armes pour bousiller les autres. C'est tout.
Ah non, là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça pose le problème de l'exportation des armements, sans aucun doute.
Bon, parce que des armements, il y en a un paquet quand même. Hein.
Oui, non, mais bien entendu, c'est sûr.
Il y en a un sacré paquet.
Enfin, on n'a même pas besoin d'en fabriquer, vous savez.
Mais qui est-ce qui
fabrique? J'ai un ami qui est libanais.
Qui fabrique les armes? C'est bien les hommes.
Oui, non, bien sûr.
Donc c'est les hommes qui sont malheureusement obligés de construire ces armes pour survivre.
Pour faire gagner du profit à d'autres qui en gagnent beaucoup plus que ça, ouais, je suis d'accord avec toi. La question est vaste. L'usine AZF, si elle a pété, si on a tant dans le monde, c'est qu'il y a malheureusement des gens qui y travaillent.
Ça prend un rond, etc. T'es obligé de faire vivre tes enfants. On te propose un truc, même si t'es anti-militariste, tu vas dire bon, bah j'y vais. Même si je sers un boulon, Moi, je suis anti-militariste forcené.
Oui, non.
Mais sers un boulon sur une tourelle de char, ça veut dire que je participe à l'affaire de la guerre.
Oui, mais enfin,
l'avenir.
De toute façon, il y a des gens qui savent dire non. Ça a toujours existé. Il faut espérer qu'il y en aura de plus en plus. Attendant, on va écouter un morceau de Circonstance. Arnaud, tu vas nous dire lequel?
Oui, c'est un groupe de Parisiens qui s'appelle La Rue qui est à nous. Et puis, ça s'adresse pas du tout à Christian ni à personne ici. C'est le titre de la chanson, c'est Tu parles trop.
Donnez-lui quelque chose à manger, ou bien quelqu'un à embrasser, n'importe quoi pour l'occuper, pour le faire taire sans se fâcher. Tu parles trop, tu parles trop, tu parles trop, tu n'écoutes plus personne et plus personne ne t'écoute. Pousse-toi, laisse passer les anges. Elle est modeste, elle est timide. Tais-toi, tu gagneras au change. Faut se remplir quand on se vide. Tu parles trop, tu parles trop, tu parles trop, tu n'écoutes plus personne et plus personne ne t'écoute. Et ce n'est pas que ton discours ne semble pas intéressant.
Tu parles
peut-être même d'amour. Ouais, mais tu parles tout le temps. Tu parles trop, tu parles trop. Tu parles trop, tu n'écoutes plus personne. Et plus personne ne t'écoute. Tu doubles tout le monde, y est-tu que vôtre. Tu sais c'est dur, pareil au même. Quand on passe à côté des autres, on passe à côté de soi-même. Tu parles trop, tu parles trop, tu parles trop, tu parles trop.
Radio Apple Pie, toujours avec nos invités Attaque. Avec tout un tas de sujets qui forcément passionnent et révoltent tout le monde, donc beaucoup de discussions. Gérard, un dernier mot sur...
Oui, ça concerne la réglementation des marchés financiers dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, il se trouve que déjà en 1988, Georges Soros, qui est un spéculateur très bien connu, pour le moins des gens du métier, a déclaré dans un long article dans le Financial Times qu'il était souhaitable de réglementer les marchés financiers. Ce qui veut dire en l'occurrence que la notion de tax Tobin est même acceptée par des gens comme cela. C'est donc une nécessité, ce n'est pas une révolution, c'est une nécessité pour que l'économie fonctionne normalement. Il a réitéré cela voici quelques semaines dans le journal Le Monde d'ailleurs, en développant tout simplement cet argument-là. Bon, ça c'est un premier point. Et pour terminer, pour ce qui concerne la fin dans le monde, je voudrais donner une adresse internet où vous pourrez obtenir des informations concernant la campagne « Mets la pression ». Pour ce qui concerne donc la lutte contre la faim dans le monde, l'email c'est ccfd@ccfd.asso.fr. Le web c'est www.ccfd.asso.fr. D'autre part, on peut également utiliser un autre email, c'est ampere@club-internet.fr. Merci.
Merci. Puisqu'on en est à donner des contacts, on va donner déjà le contact du site national d'Attaque, qui est www.attaque.org, et donner déjà rendez-vous à ceux qui le souhaitent au Havre le jeudi 15 novembre à partir de 20h30 à la salle René Cassin, avec une discussion sur l'ultralibéralisme et la violence, qui rejoint tous les thèmes dont on a parlé, notamment la répression à Gênes, etc., avec un orateur parisien dont je n'ai pas encore le nom. Est-ce qu'on peut donner...
130 rue Anatole France.
Ah oui, merci. Salle René Cassin, 130 rue Anatole France. Est-ce qu'on peut donner, Wilfried et Gérard, vos contacts?
Oui, c'est Wilfried Pasquet au 02 35 47 01 61.
Oui, Gérard Louis Fontaine. Téléphone 02 35 41 35 65. Je répète, 02 35 41 35 65. Ça fait fax également. Et l'email, c'est ampere, comme je le disais précédemment, ampere@club-internet.fr.
Voilà, je crois qu'on est très loin d'avoir fait le tour de tout ce qu'on pouvait dire sur Attaque, mais ça aura peut-être permis déjà d'avancer un peu, de donner à nos auditeurs internautes ou ici de vous rejoindre. Donc je vous remercie de nous avoir apporté toutes ces informations.
Oui. Un petit point de détail quand même que oui. Je voudrais rajouter, on n'a pas eu le temps de le dire, c'est tout simplement l'email d'Attaque Nationale France, mais également internationale, c'est attaque@attaque.org, et le site internet c'est attaque.org.
Merci à vous d'être venus, on écoute les Cowboys sur Motorspace et l'émission continue avec nos chroniqueurs.
Merci.
Like a ninja, why don't you call me back? You're watching TV every day, you're watching TV every night. You watch the TV and you walk around like a ninja. Why don't you call me back? Oh, ninja, why don't you call me back? I call you a ninja. Why don't you call me back? You watch your TV every day, you watch your TV every night. You watch your TV every day, you walk around like a little Linda. Why don't you call me back? Why don't you call me back? Like a ninja. Why don't you call me back? You watch me TV every day. You watch me TV every night. You watch me TV and you're walking on the air. Like a ninja. Why don't you call me back?
Cowboys from Outer Space, Linda. Les Cowboys from Outer Space qu'on a passé parce que de toute façon on les adore. Et aussi pour rappeler aux Havrais qui sont présents ce soir qu'il y a un grand festival à côté de Saint-Hilaire-de-Harcouët dans la Manche samedi prochain, le 13 octobre, avec carrément les Hollikers, les Backsliders, les Jerky Turkey de Bordeaux, les Gazolèdes également de Marseille comme les Cowboys, et qui j'ai oublié, les Hollikers de Paris que tout le monde adore ici. Donc samedi 13 octobre, si vous voulez en savoir plus, vous appelez soit le bar, soit les Backsliders.
Avec les Backsliders.
Et maintenant, place à la musique et à la BD au polar.
2, 1.
Et bien voilà, nous sommes partis maintenant sur les chroniqueurs et donc la rubrique bande dessinée pour l'instant. Donc ce soir je vais vous parler d'une série qui s'appelle Les Mémoires d'Amoros, une BD espagnole. Et donc je vais commencer à vous parler par un petit peu du dessinateur, du scénariste. Donc le dessinateur c'est Federico Del Barrio. Donc il est apparu dans les années 80 dans une revue qui s'appelle Madrix. qui faisait partie des fers de lance en fait de la, on va dire la nouvelle vague espagnole en Espagne, on est dans les années 80. Et il travaillait beaucoup avec Isanaris Cava, qui était lui aussi rédacteur en chef de cette revue, avec lequel il a fait une série donc qui s'appelle Les Mémoires d'Amoros, en 4 volumes, dont il y en a 2 parus pour l'instant en France, chez un éditeur qui s'appelle Amok. Et donc ce cher monsieur Del Barrio, donc il a choisi de prendre en fait le nom de Sylvestre en 95, pour se démarquer un peu de l'œuvre qu'il a fait déjà avant, et de faire donc 2 albums qui sont parus aussi chez Amok, qui s'appellent Relations et Simples, et qui en fait interroge sur la création en explorant un peu les artifices de la BD. Et il est aussi metteur en scène et auteur de théâtre. Le scénariste Felipe Cava est un des plus grands scénaristes espagnols actuels. Et donc dans les années 80, donc, il était rédacteur du magazine Madrid et de Medios Revoltos. Il a volonté surtout d'introduire au sein de la BD une conscience historique. Il est critique d'art et aussi scénariste pour la télévision. Et en fait, la série, est, du point de vue de Cava, est inspirée d'un personnage réel qui s'appelle Eduardo de Guzman, qui est mort en 1991, qui était rédacteur en chef de différents journaux anarchistes dans les années 30. Il est arrêté et condamné à mort en janvier 40 par le régime de Franco. Sa peine est commuée à perpétuité, après de longues quand même années en détention et en conditionnel après. Et puis donc à partir de là, quand il sort de prison, vu que le régime est toujours en place et que c'est pas toujours la joie pour les opposants, il ne peut plus exercer sa profession de journaliste. Donc il est choisi en fait, comme pas mal de gens dans la profession, de traduire des romans et de faire aussi d'écrire des romans un peu populaires. Et surtout, il faisait lui était spécialisé en fait dans les romans policiers. En fait, il mettait en scène des romans policiers qui se passaient aux États-Unis et tout le monde était assez étonné par le fait qu'effectivement, il faisait croire à tout le monde que les personnages étaient américains, etc., alors qu'il n'y avait jamais été. Donc après la censure, comme ça s'est un peu amoindri dans les années 70, il est surtout reconnu à partir de ce moment-là en écrivant des romans sur l'histoire de l'Espagne. Et donc il y a un essai qui s'appelle L'année de la violence qui a été primé dans les années 75 par le prix international de la presse. Voilà. Donc à partir de là, on peut parler des BD elles-mêmes. Donc le premier tome s'appelle Signé Mister Fou. Donc ça se passe dans les Madrid fin des années 20. Personnage de journaliste, le héros en fait est un peu inspiré effectivement de Guzman, mais il est moins politiquement impliqué dans les événements. Il est moins vraiment comment dire,
militant, engagé.
Ouais, tout à fait. Et en fait, il se passe des meurtres de Chinois à Madrid. Des Chinois qui sont une communauté dans les années fin des années 20, qui vendent des colliers, bon, sont plus ou moins véridiques, etc. Et il y a des meurtres qui se passent dans ces communautés. Et donc, en même temps, il y a toute une histoire d'un certain personnage qui s'appelle Mister Fou, qui est une espèce d'ombre jaune derrière, qui manipule pas mal de choses, et qu'il y a des attentats qui se passent. Donc il y a la communauté chinoise qui est prise à partie, et on commence à vouloir... Bon, la xénophobie rentre en compte. Et en fait, l'explication se trouvera plutôt du côté, en fait, de l'ex-colonisation des Philippines. Parce que l'Espagne a été longtemps colonisateur des Philippines. Donc ça revient un peu, effectivement, à ce que je disais tout à l'heure, qu'en fait, effectivement, Cava est très porté sur le sujet de l'histoire de l'Espagne, et puis il met souvent en place des scénarios comme ça, qui forcent un petit peu sans vraiment mettre le doigt dessus en appuyant, mais il a toujours une toile de fond très historique et il rappelle des choses de l'histoire de l'Espagne. Donc faut pas oublier quand même que les Philippines ont obtenu en fait leur autonomie en 1934 seulement, et effectivement ils l'ont eu qu'en 1946, puisque bon, ils ont été quand même occupés pas mal par les Japonais après d'avoir subi pas mal de choses quand même. Ça c'était le premier tome. En fait, bon, ça rappelle pas mal Tardi, Léo Mallet, au niveau de l'ambiance. Hein, c'est un peu l'équivalent espagnol, je trouve, moi, de des enquêtes de Nestor Burma au niveau de Léo Mallet et Tardi, les liaisons qu'il y a entre les deux. Donc le deuxième tome, bon, c'est pareil, on retrouve un peu toujours cette ambiance-là. Là, ça se passe au début des années 30. Donc le personnage principal, Amoros, qui est journaliste, donc fait connaissance dans un bar d'une superbe jeune fille mystérieuse un peu, et de son ami, un baron qui est un peu mystérieux aussi. Et il se retrouve tout d'un coup mêlé à un trafic d'œuvres d'art et un règlement de compte qui puise en fait ses sources dans une vente d'armes qui s'est passée en fait au Maroc à une époque, lorsque les troupes marocaines se battaient contre la future légion, enfin la légion du futur Franco. Voilà, donc on retrouve toujours la trame historique, etc. Donc moi je vous conseille vraiment ces deux albums-là, en espérant que les deux autres sortent le plus vite possible, parce que bon, ça c'est vraiment le joint entre histoire et polar. C'est vraiment très très intéressant.
Merci Pascal. Est-ce qu'il y a un vague rapport avec des gens que j'aimais beaucoup dans le temps qui s'appelait Munoz et Sampaio? Non, je dis n'importe quoi.
Bah disons, non, parce que Munoz et Sampaio étaient argentins, et bon là c'est vraiment espagnol. Mais ceci dit, au niveau de l'ambiance, au niveau effectivement du... peut-être pas du trait, mais du noir et blanc, parce que ça, c'est, on est aussi en noir et blanc. Il y a un petit lien quand même quelque part, ouais.
Oh, qui vont comme ça.
Un sais, terme aussi, très... bon, effectivement, Munoz et Sampaio, c'est du polar noir, avec une connotation aussi un peu politique de, aussi. Donc, je pense que oui, il y a un rapport quelque part.
Bon, qu'est-ce que tu peux nous répéter les deux titres et
donc,
le nom
voilà,
de
donc
cet
ça s'appelle Les Mémoires d'Aboros. Donc, il y a un tome qui s'appelle Les Signes Mister Fou, et le deuxième tome qui s'appelle La Lumière d'un siècle mort. Et donc, c'est aux éditions Amok.
Merci Pascal, et voilà. Je suis désolée de ne pas avoir présenté plus que ça ta chronique.
Mais c'est très bien.
Maintenant, la suite.
It's a spiritual music. It is a spiritual music.
Are
we ready to go? Okay.
It is a spiritual music. It's a spiritual ingredients.
Et maintenant, je ferai pas deux fois la même erreur. La chronique musicale d'Arnaud.
Ouais.
Mais moi, je voudrais dire quand même, c'est pas une erreur, c'est une surprise. C'est autre chose.
Bon ben bonsoir, moi je voulais vous parler de quelques petits groupes qui ont une importance somme toute majeure. On s'en rend pas bien compte comme ça, mais bon, pour prendre les plus fameux, on peut parler à Toulouse des Zebda, qui sont très investis dans leur quartier, très investis dans les mouvements sociaux, et sans arrêt à faire des concerts pour une cause ou pour une autre. On les a vus à Millau. Au moment du procès de José Bové, on les a vus un peu partout et revus à Toulouse là récemment. Et on peut là constater l'importance que peut avoir un groupe sur tout un quartier, voire sur toute une ville, voire même encore une région. Et c'est pas des Zebda que je voulais vous parler, c'est des Asian Dub Foundation. Mais pour moi, j'y vois un parallèle flagrant entre les Zebda français et les Asian Dub anglais, enfin, pakistanais, anglais. Enfin, pakistanais, faut peut-être pas le dire en ce moment, mais ils sont anglais.
Ici, voilà. Ils existent, hein, de toute façon, faut mieux en parler.
Hein. Ils ont un peu le même investissement personnel, chacun des musiciens a un investissement lourd et personnel pour différentes causes, et leur groupe aussi intervient lui sur différents festivals, concerts pour différentes causes aussi diverses que variées. En tout cas, on peut dire que c'est des gens qui se retrouvent dans l'anti-mondialisation, tout comme c'est notre ami Wilfried tout à l'heure qui nous parlait de Manu Chao. Ben voilà, on a là la preuve de gens qui s'investissent, des gens qui ont réussi musicalement et puis qui ont acquis une certaine renommée, et puis qui s'investissent totalement pour combattre la mondialisation, et qui se place en figure de proue de toute une jeunesse. Et je pense que là, c'est aussi un côté intéressant de l'anti-mondialisation. Ni gauche ni droite, c'est
Gérard qui nous a dit ça tout à l'heure, ni gauche ni droite. Et ça se discute, c'est sûr. Enfin, là, c'est quand même l'exemple. Asian Dub Foundation, Zebda, Manu Chao. Bon, effectivement, on peut pas dire qu'ils soient de droite. Ceci dit, je suis pas persuadé non plus qu'ils soient de gauche. Peut-être, ils en sont plus proches, plus tendance à avoir des rapports avec les gens de gauche, mais pas d'investissement politique en tout cas, quoi. Donc je crois que le plus simple, eh ben, c'est d'écouter tout de suite un morceau de Asian Dub Foundation qui s'appelle Collective Mode et qui là parle justement, comme son nom l'indique, du mode collectif et que collectivement on sera toujours un peu plus fort que les autres. Et voilà pour Asian Dub Foundation Collective Mode. Et là, c'est quand même une figure de proue de la musique actuelle, mais il y a tout un tas de petits groupes qui s'agitent autour de tout ça et qui sont aussi efficaces avec leurs petits moyens. Moi, je pense à La Fraction, par exemple, un groupe de Paris qui avait, il y a quelques années, sorti un 45 tours auquel... pour lequel ils n'ont rien touché du tout. Ils envoyaient tous les bénéfices de la vente de leurs 45 tours au commandant Marcos. Donc le fameux commandant Marcos, la fraction c'est un exemple, j'en ai bien d'autres comme les Rascas, avec le morceau que je vais vous faire écouter juste après ça qui s'appelle Viva Zapata et qui parle activement de la lutte du commandant Marcos en soutien actif. Et les Rascas, bah, c'est un groupe de Toulon qui est venu jouer quelques fois dans notre bonne ville du Havre. Un groupe de ska, voilà, ça va en faire hurler certains, mais c'est comme ça, un groupe de ska. Et ben ces petits gars-là, ils sont très actifs dans leur truc, c'est-à-dire qu'aussi dans leur région, ils s'investissent sur des réunions, des mouvements sociaux, des concerts pour telle ou telle cause aussi, comme les autres. Et donc, il n'y a pas besoin d'être Asian Dub Foundation, Manu Chao ou Zebda pour participer à toutes ces réunions. Donc, les Rascas, un petit groupe de Toulon, avec un morceau qui s'appelle « Viva Zapata ».
Tout près de Guatemala, el conquistador dorme sin départ. Con el sur, comandante Marcos, la solución, la vida o la muerte. Con el sur, comandante Marcos, la solución, la vida o la muerte. Dans la voiture de la nuit, on sentait la mort planante. C'est encore la guerre, mais peut-être la dernière. Tant qu'à faire, quitte à crever, tout faire péter pour Yaba, pour la liberté. Viva Zapata, et la liberté, les barres, viva Zapata. El solo le vaya viva Zapata, el alita me va a viva Zapata, el solo le vaya. Même les bruits de la forêt sont devenus suspects. L'heure n'est plus au sommeil. El Chapacan, El Chapacan, El Chapacan, où tu te réveilles. Viva Zapata, et la lutte armée va faire viva Zapata. Et le solo de Maya, viva Zapata. Et la lutte armée va faire viva Zapata. Et le solo de Maya, viva Zapata. Et la lutte armée va faire viva Zapata. Et le solo de Maya, viva Zapata. Et la lutte armée va faire viva Zapata. Chico pour liberta,
liberta, liberta. Libertad, 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 libertad.
Voilà les Rascas, Viva Zapata, et en fait un groupe de ska, mais un petit peu énervé quand même, hein, avec des guitares saturées, et ça je crois qu'ils l'ont appris en venant faire un concert au Havre, où ils ont rencontré plusieurs groupes de rock'n'roll, et où ils ont pris goût à la guitare Saturax, voilà. J'avais autre chose à vous dire, c'est que il y a vendredi 19 octobre à 21h au bar Les Oreilles rue Casimir de la Vigne, un groupe tout récent du Havre qui s'appelle Astonia et qui est très bien, qui est un groupe de pop rock mais très bien. Voilà. Et puis autre chose, dans notre prochaine émission, nos prochains invités, ce sera les MST, les fameux Mobs et Travaux. Et puis je peux que vous encourager à écouter ou à venir sur place pour voir de vos yeux l'émission.
Notre prochaine émission qui a lieu donc le 24 octobre, puisque c'est tous les mercredis en 15, comme tout le monde le sait.
Et voilà. Et donc les Mobs et Travaux, les MST, avec Dépassons l'Opossum.
Dépassons l'Opossum. Doublons la loutre. Montrons aux créatures des lacs et des sous-bois qu'il y a dans la nature des gens qui, comme moi, les dominent.
Dérangeons les rougets, flagellons l'orignal, parlons plus fort que le castor.
Ouais.
Humilions la musaraigne, épuisons l'écureuil, soyons plus aproquins que la civelle et les glofins.
Ouais. Attouchons la fouique, culbutons la hulotte, fourrons les furets. Vous
violons les meux.
Ouais. Dépassons l'opossum. Doublons la loutre. Montrons aux pensionnaires des plaines alluviales qu'il y a dans l'univers des hommes qui s'en vont. Les nomines.
Détartrons les tétras. Huons le campagnol. Soyons plus vrais que le faucon.
Ouais.
Arsouillons la sarcelle, insultons le barbeau, devenons plus revêches que le silure et la chevêche.
Ouais. Abusons du buzard, écartelons la crue, interdisons la suisse. Au coucou. Ouais. Dépassons le possum. Doublons la loutre. Montrons aux riverains des cluses et des futaies qu'il y en a au moins un qui, quand cela lui plaît, les domine. Dépassons l'opossum. Doublons la loutre. Montrons aux créatures des lacs et des sous-bois qu'il y a dans la nature des gens qui, comme moi, les dominent.
Mobs et Travaux, nos invités de la prochaine émission qui aura lieu le mercredi 24 octobre. Mobs et Travaux qui parle de jardinage. Pascal, je ne sais pas si ça fait un lien habile avec le polar que tu vas nous chroniquer
si,
maintenant.
Parce qu'on va parler agriculture. Donc on va parler d'un polar qui s'appelle « Il faut buter les patates » de Gérard Hall, qui est paru dans la collection Ultime Polar chez l'éditeur Baleine. Baleine qui est l'éditeur de la série Le Poulpe, qui est quand même maintenant suffisamment connu, quelque part. Et donc ce polar, en fait, il parle de l'histoire de Michel, un jeune cultivateur breton qui veut sauver la ferme de ses parents. Le problème, c'est que la ferme est engorgée jusqu'aux yeux au niveau des banquiers. Et puis la coopérative du coin veut essayer de mettre la main dessus parce que, bon, elle a des vues dessus, etc. Et puis comme le patron de la coopérative est le maire du village, et qui est vraiment un spéculateur un peu passif, donc il essaye de faire un maximum de choses là-dessus. Et donc Michel n'a pas laissé faire, donc il va partir en guerre avec ses potes, en guerre c'est un grand mot, mais il va essayer de faire bouger les choses avec ses copains. Et donc il va en, là-dessus il va s'enchaîner plein de problèmes, dépression, et quand je parle de pression, c'est pas seulement au niveau du figuré, c'est au propre aussi. Patron, dis-moi une s'il vous plaît. Et donc dépression, je disais, et puis des preuves de force avec des chasseurs, des flics, des accidents mortels, ça arrive souvent, il paraît. Et puis donc et même des enlèvements, et notamment un enlèvement de Céline Dion. C'est assez phénoménal. En fait, ça se passe lors d'un grand concert qui est organisé par le fils du maire, qui a décidé d'organiser un super concert pour renaître, pour faire enfin revivre le village, et pour mettre un peu l'accent sur le patelin. Et il organise un super concert avec les Rolling Stones, Céline Dion, où il attend 200 000 personnes. Effectivement, il y a 200 000 personnes qui viennent. Et un des copains de Michel qui est en prison parce que il est soupçonné d'un meurtre de ses copains, Il est soupçonné aussi d'avoir intégré un virus dans les vaches et les cochons du coin. Tous les vaches et les cochons du coin sont décimés. Ça rappelle quelque chose d'ailleurs au niveau des virus. Et donc lui est en tôle et le copain décide de kidnapper Céline Dion pour le faire libérer. Et donc, en fait, dans le concert, il y a donc des mouvements partout, il y a les copains de Michel. Tiens, je tape sur le micro, ça m'énerve. Et donc, hein? Bah oui, je tape quelqu'un. J'ai préféré le micro.
Sinon, c'était Pascal.
Arnaud. C'était Arnaud qui n'arrêtait pas de bouger. Il fait des bruits en plus.
Alors, c'est Céline Dion.
En direct. Et donc, Céline Dion, finalement, prend parti pour Michel.
Ah.
Avec son super accent, etc. Bon, c'est pas déterminant pour sa libération, pas franchement. Mais en fait, bon, ce qui est intéressant, surtout dans le polar, c'est que sous couvert d'un polar un peu noir, un peu humoristique en même temps, bon, il met l'accent sur certaines choses au niveau des problèmes des paysans, et puis effectivement, ce qu'on leur impose un peu par moment, ce qu'ils ont bien voulu aussi, au niveau des cultures, des élevages. Et puis bon, ça met vraiment le doigt dessus quelque part, tout en restant bon un polar noir, un peu humoristique, un peu cynique en même temps. Voilà. Donc en fait, Michel ressort de prison avec une conscience quand même un peu plus grande qu'il l'avait au départ, en disant bon effectivement les paysans c'est bien, mais il y a quand même plein d'élats qu'on a accepté. On aime bien notre pays, c'est vrai. On peut pas faire grand chose parce que malheureusement, à l'époque actuelle, bon, c'est difficile. Mais par contre, il y a toujours une volonté derrière de cultiver la terre et de vouloir se battre, quoi. C'est vraiment très bon. D'ailleurs, je vais vous lire le dernier passage pour expliquer. Okay. D'ailleurs, il faut puter les patates. Il n'y a pas de raison. Donc, ça va être très short. Hein. Je n'entame pas tout le bouquin. C'est juste le dernier paragraphe. Sinon, on n'a pas fini. Enfin, si j'arrive à trouver la page, oui, c'est
ça
bon.
Ça me rappelle quand j'étais à l'école et qu'il fallait lire des livres. Et, tu sais, la version résumée, là, c'est vachement
non, j'aime
pratique.
Pas la version résumée, mais c'est pas...
Merci.
Pour la version résumée, c'est ça. Donc, on y va. Une voiture approche, je traverse la route, je me dis une chance encore, ne jamais marcher seul, rêver toujours. La voiture se gare, la portière s'ouvre, claire, robe légère, sourire accroché. Elle s'assoit sur le bord du capot. Le vent tourbillonne, sa robe de ci, de là. La salive me colle au palais.
Moi aussi.
Une acidité sur les dents. Désir. Claire ne dit rien. Moi non plus. Moi qui n'ai jamais buté personne. Un peu plus loin dans un champ, la voiture s'arrête. Claire, je pose la main sur sa cuisse. Sous sa robe, un cadeau. La liberté sans le moindre obstacle de nylon. Le ciel s'ouvre. Le pays éclate de mille couleurs brodées sur le noir d'hiver. Ce noir profond qui refuse malgré tout d'être le noir de l'âme. Les deux mufiels ne font plus qu'un. Pour que la terre s'ouvre, la mémoire me revient. Pas les chars d'assaut de la mémoire obligatoire, plutôt une brise légère et persistante qui me dépose pas très loin. Arrivé là, au bout du champ, je me dis, moi qui n'ai jamais buté personne, avant le prochain grain, il faudra buter des patates. Voilà.
Bravo.
Voilà. Donc, avant de finir, je voudrais quand même parler d'autre chose, parce que bon, attaque, c'est pas seulement aussi... Enfin, c'est surtout, avant tout, des actions, quelque part, des projets, etc. Mais ils ont aussi une collection qui est sortie aux éditions Mille et Une Nuits, qui est pas très chère et qui est hyper intéressante. Il y a 11 titres, donc vous pouvez la procurer de toute façon dans les grandes librairies. dans les bonnes librairies. Donc n'hésitez pas, et c'est pas très cher. Donc allez-y.
Tu fais bien d'en parler, pas très cher. Effectivement, les bouquins des mille et une nuits, non, c'est 10 francs en général, donc ça reste très correct. Et j'avais oublié moi aussi de proposer à nos auditeurs quelques bonnes lectures. Par exemple, encore un ouvrage collectif d'attaque, celui-là un petit peu plus cher, mais enfin ça reste très correct. Contre la dictature du marché, qui vaut 35 francs. Je suis désolée, j'ai pas l'éditeur là, mais dans les bonnes librairies, il y a pas de problème. Géopolitique du chaos d'Ignacio Ramonet, qui est donc membre éminent du monde diplomatique et qui était à l'initiative de la création d'attaque. Donc c'est chez Folio, les prix sont variables mais pas très élevés non plus. Et dans un genre plus drôle mais très pédago aussi, c'est La crise finale, dans la collection Charlie. C'est un bouquin qui vaut 25 francs, qui est écrit à la fois par Oncle Bernard, économiste éminent de Charlie Hebdo, pas uniquement ça, et donc illustré par Luz. Voilà, voilà. On vous recommande une dernière fois, bien sûr, donc Le Monde Diplomatique, Charlie, on en a parlé. L'écoute de l'excellente émission de Daniel Mermet. Bon, nous, c'est que tous les 15 jours, mais lui, c'est tous les jours sur France Inter, à partir de 17h, là-bas, si j'y suis, qui, en ce moment, est le seul qui aborde de manière pertinente et impertinente tous les sujets, et qui a été privé d'antenne pendant une semaine à la suite des attentats aux États-Unis. Voilà, je crois qu'on a tout dit. On remercie encore Attac, on remercie Pascal et Arnaud, on remercie Arnaud, l'autre, à la technique, Loïc à la technique, Coco et Dom derrière le bar, et Pierrot qui fera la page graphique.
Et
bonsoir.
Et
les gens qui sont présents.
Et le public, bah oui, bien entendu.
Et notre hôte.
On croirait à pyramide.
François, notre hôte.
Absolument.
Luxueux. Et moi, je voulais ajouter, je voulais vous dire, voilà, ça fait, j'ai arrêté de fumer, ça fait 17 jours, et ça va.
Bon.